Lecture de la troisième conférence donnée par Rudolf Steiner à Munich le 26 mai 1907 et qui porte comme titre « Le monde élémentaire et le monde céleste, la veille, le sommeil et la mort ». Cette conférence est extraite du cycle de conférences intitulé « Théosophie du Rose-Croix », bibliographie GA 99. Nous allons aujourd'hui considérer l'être humain dans chacun des trois états, de veille, de sommeil et de ce qu'on appelle la mort. Chacun, d'après ses propres expériences, se fait une idée de l'état de veille, mais il n'en va plus de même en ce qui concerne le sommeil. Quand nous dormons, notre corps astral, notre je, et la partie du corps astral que le je a déjà métamorphosée, se séparent du corps physique et du corps éthérique. Si, au moyen de la clairvoyance, vous observez le dormeur, vous distinguerez, reposant dans son lit, le corps physique et l'enveloppe éthérique. Ces deux corps, pendant la nuit, ne modifient pas le lien qui les unit à l'état de veille, tandis que le corps astral s'en détache et attire à lui les éléments supérieurs de la constitution humaine. L'œil du voyant peut voir, au moment où le sommeil s'empare de l'être humain, le corps astral émerger, dans une certaine lueur des corps inférieurs. Nous pourrions ajouter pour préciser que le corps astral, chez l'être humain d'aujourd'hui, apparaît comme strié de divers courants qui le parcourent et comme parsemé de lueurs intermittentes. Le tout prend la forme, au moment du sommeil, de deux spirales qui se pénètrent, ou si vous voulez, de deux chiffres 6 qui s'enlacent ou s'emboîtent l'un dans l'autre. L'une des spirales plonge et se perd dans le corps physique, tandis que l'autre, semblable à la queue d'une comète, se déploie au loin dans l'espace. Cependant, au bout d'un court moment, les extrémités des deux spirales, à mesure qu'elles se déroulent, semblent se diluer et deviennent invisibles, de sorte que le corps astral prend plus ou moins la forme d'un œuf. Au moment du réveil, le panache astral qui se déployait dans un lointain cosmique se perd tout à fait et le tout reprend de nouveau possession des corps physiques et éthériques. Dans le rêve, nous reconnaissons un état intermédiaire entre la veille et le sommeil. Le rêve apparaît lorsque le corps astral, s'étant déjà dégagé du corps physique, en a retiré ce qu'on pourrait appeler ses filaments, tout en restant néanmoins en communication avec le corps éthérique. Alors, devant l'œil intérieur du dormeur, surgissent ces images que nous appelons les rêves. C'est à la vérité un état transitoire. Vu que le corps astral est entièrement retiré du corps physique, tandis que d'une certaine manière, il communique encore avec le corps éthérique. L'être humain endormi vit donc dans son corps astral, hors des deux corps inférieurs. Vous savez que le sommeil est un bienfait pour la nature humaine. Vous ne devez pas vous imaginer que le corps astral libéré par le sommeil demeure inactif. Pendant la journée, alors qu'il est une partie intégrante des autres corps, le corps astral est sans cesse sollicité par les impressions du monde extérieur. Ces impressions lui viennent des perceptions par les sens, des activités que l'être humain déploie dans sa vie consciente, des sensations qu'il y éprouve. Tout ce que l'être humain ressent et tout ce qui agit sur lui du dehors, tout cela se répercute sur le corps astral. Ce corps est donc en quelque sorte le lieu où les sensations et les pensées surgissent et les corps physiques et éthériques lui servent d'intermédiaires et d'instruments. Pensée, volonté, tout cela est dans le corps astral. D'autre part, il nous faut retenir que ce corps est la cause première des deux autres, qu'il a peu à peu constitué en les tirant de lui-même. Si le corps éthérique a donné naissance au corps physique, comme un sel qu'on précipite dans une solution, ce corps éthérique, à son tour, avec tout ce qu'il a d'ondoyant et de vivant, naît du corps astral. Quant au corps astral lui-même, d'où tire-t-il son origine ? Il s'est formé au sein de l'astralité cosmique, répandue dans notre univers entier. Si vous voulez vous représenter le rapport de votre propre corps astral à l'immense mer astrale dans laquelle baignent tous les êtres humains, les animaux, les plantes et les minéraux, dans laquelle les planètes gravitent et dont toutes choses tirent leurs principes, vous n'avez qu'à imaginer un liquide quelconque remplissant un grand vase. Comme dans ce vase, une goutte tire son être de la totalité du liquide, tout ce qui constitue un corps astral a été une fois comme répandu et dilué dans l'immensité astrale de l'univers. Mais notre astralité, en se combinant au corps inférieur, est la goutte qui s'est détachée de l'ensemble. Aussi longtemps que le corps astral reposait au sein de cet organisme cosmique, il recevait ses impressions, ainsi que les lois qui régissaient sa nature, de cette astralité universelle. C'est là qu'était sa vie. Mais depuis la séparation, il est soumis pendant le jour aux influences extérieures, de sorte qu'il lui faut départager sa nature entre les impressions qui remontent encore à l'astralité cosmique et celles qui lui viennent du dehors, du fait de son contact avec le monde matériel. Quand l'humanité aura atteint le but de l'évolution terrestre, les deux côtés de sa nature astrale formeront une harmonie, ce qui n'est guère le cas de nos jours. C'est donc ce corps astral qui a édifié le corps éthérique et, indirectement, le corps physique, celui-ci dérivant du corps éthérique. Or, comme tous les éléments mis en œuvre par le corps astral, puisqu'ils étaient empruntés à la mère astrale primitive, étaient d'une nature essentiellement harmonieuse et saine, il va de soi que les deux corps inférieurs étaient eux aussi à l'origine doués d'une vigueur et d'une santé à toute épreuve. Toutefois, par les influences qui agissent du monde matériel sur le corps astral, cette harmonie primitive a été rompue, et de là viennent toutes les indispositions, toutes les maladies du corps physique dont souffre l'humanité. Si le corps astral était condamné à rester constamment lié à l'organisme inférieur, à ne jamais s'en libérer, toute l'harmonieuse vigueur qu'il a tirée jadis de son origine cosmique se trouverait bientôt épuisée. Les êtres humains seraient vite usés par l'épuisement et la maladie. Mais pendant le sommeil, le corps astral peut se soustraire aux impressions délétères du monde matériel et retrouver l'harmonie cosmique qui est sa vraie patrie. Et quand il revient le matin et rapporte les échos de son vol nocturne, il est véritablement régénéré. Ainsi, le voyant peut-il contempler de nuit l'activité du corps astral. Il voit l'un des panaches disparaître comme une comète dans la mer astrale et travailler à sa régénération en se débarrassant de la fatigue journalière. Le résultat de ce travail apparaît le matin, quand on se réveille fortifié. Toutefois, le corps astral doit d'abord en quelque sorte s'habituer aux conditions matérielles, de sorte que cette sensation de bien-être n'apparaît, en général, que quelques heures après que le corps astral ait repris possession du corps physique. Le sommeil, dit-on, est le frère de la mort. Essayons donc de nous représenter quel est l'état de l'être humain après son décès. Le mort se distingue du dormeur en ce que non seulement le corps astral, mais encore le corps éthérique abandonne le corps physique. Jamais, au cours de toute la vie, le corps éthérique ne se sépare du corps physique, à moins que l'être humain ne passe par certaines expériences initiatiques. Un tournant important pour l'âme est le moment qui suit la mort. Il peut durer des heures, des jours même. Dans cet état, l'âme voit se déployer devant elle comme une grande fresque, toute sa vie dans la dernière incarnation. C'est là une expérience commune à toutes les âmes. Une particularité de ce tableau, tel qu'il apparaît aussitôt après la mort, consiste dans le fait que toutes les expériences subjectives que l'être humain a pu faire pendant la vie y sont comme effacées. Durant notre vie, la joie ou la douleur, la tristesse ou le contentement ont toujours marqué les péripéties de l'existence, et le spectacle du monde était inséparable des sentiments qu'il nous suggérait. Or, dans ce tableau, tous ces sentiments concomitants ont disparu. On assiste au déroulement de sa propre vie aussi objectivement que si l'on regardait une peinture où l'artiste aurait représenté quelques scènes dramatiques dont nous pouvons comprendre et juger les sentiments, mais sans les ressentir comme étant les nôtres. Il en va de même de ces images post-mortuaires. La fresque se déroule à nos yeux, nous rappelant en raccourci tous les détails de la vie passée. D'ordinaire, la séparation du corps éthérique du corps physique n'a lieu, pendant la vie, qu'au moment d'une initiation. Mais il y a quand même certains moments où le corps éthérique brusquement se détache en partie. Cela peut arriver dans un moment d'effroi ou lors d'un accident, chute ou danger de noyade. Le choc provoque alors une certaine rupture dans l'équilibre des deux corps et pour un moment, le corps éthérique se libère. Le résultat en est qu'à cet instant, toute la vie écoulée jusqu'au moment du choc apparaît au regard intérieur comme condensée en un vaste tableau. Vous avez là une analogie avec ce qui se passe après la mort. Un phénomène semblable, quoique moins grave, nous est bien connu. C'est la sensation du fourmillement dans un membre. Si le voyant observe, par exemple, une main endolorie, il voit la partie éthérique correspondant à la main prendre comme un gant. Et lorsqu'un homme se trouve sous l'effet d'une hypnose, certaines parties du cerveau éthérique pendent comme détachées de la tête. Et comme le corps éthérique pénètre le corps physique d'un réseau très serré de petites fibres semblables à des points, nous ressentons dans le membre en question le picotement bien connu. Au bout d'un certain temps, après que les corps éthériques et astrales se sont détachés de ce qui n'est plus qu'un cadavre, vient le moment où le corps astral, avec tout ce qui constitue les corps supérieurs, se détache à son tour du corps éthérique. Celui-ci est rejeté et le tableau de la vie passée s'efface, sans pourtant disparaître complètement. Assurément, ce que nous pourrions appeler substance éthérique ou substance vitale se dissout dans l'éther cosmique. Mais il en reste pourtant quelque chose comme un extrait qui accompagnera l'être humain dans toutes ses pérégrinations futures et, dans aucun cas, ne pourra se perdre. L'être humain emportera avec lui cet extrait du tableau de vie dans toutes ses incarnations futures, alors même qu'il ne s'en souviendra pas. On appelle cette quintessence des vies successives le corps causal. Après chaque incarnation, un nouveau feuillet s'ajoute au livre de la vie. Cela accroît les réserves de force et les essences vitales, et celles-ci, à condition que les vies précédentes aient été fécondes, donneront à la vie suivante un essor correspondant. La raison pour laquelle une vie humaine est riche ou pauvre en talent, en bonne disposition, etc., c'est dans le corps causal qu'il nous faut la chercher. Pour comprendre la vie du corps astral, après l'abandon du corps éthérique, nous devons examiner son rôle dans la vie ordinaire. Quand nous sommes sur Terre, c'est le corps astral qui se réjouit, qui souffre, qui satisfait ses désirs, ses passions ou ses instincts à l'aide des organes du corps physique. Or, c'est justement ces organes physiques qui lui manquent après la mort. le gourmet ne peut plus satisfaire ses appétits, car il n'a plus sa langue qu'il a perdue avec le corps physique. Mais le besoin, le désir sont toujours là, car ils dépendent du corps astral. De là viennent cette soif brûlante et ces désirs inassouvis qui caractérisent le temps passé dans le Kamaloka. Kama, en effet, signifie désir, convoitise, et loka, le lieu. En réalité, il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'un état. Celui qui, dès ici-bas, essaye de se dégager tant soit peu de l'emprise de son corps physique et de ne pas en être l'esclave, raccourcit son séjour dans le Kamaloka. Or, c'est déjà élever son esprit hors de la sphère matérielle que de s'adonner à la contemplation de l'harmonieuse beauté d'une œuvre d'art. L'art réaliste, qui ne s'applique qu'à nous donner une copie du monde sensible, a pour effet d'aggraver les conditions de vie dans le Kamaloka, tandis que l'art spirituel les rend plus supportables. Toute noble jouissance de nature spirituelle raccourcit le Kamaloka. C'est pourquoi il nous faut tendre dans notre vie terrestre à nous débarrasser des besoins et des désirs invétérés qui sont liés à la matière. Le séjour dans le Kamaloka a précisément pour but de nous guérir de nos habitudes terrestres en nous refusant toutes les jouissances qui ne peuvent être satisfaites qu'à l'aide du corps physique. La durée du Kamaloka est environ d'un tiers de la vie d'ici-bas. Ce qui caractérise cet état, c'est que l'être humain y revit réellement toute sa vie passée. Mais si, juste après sa mort, l'être humain n'a perçu dans un grand tableau que le déroulement objectif de sa vie, comme si cette vie ne le concernait pas, il doit revivre maintenant toutes les joies et toutes les souffrances qui ont marqué cette vie, mais comme à rebours. C'est-à-dire que ce sont les joies et les souffrances qu'il a infligées aux autres qu'il ressent maintenant, comme si c'était les siennes propres. Tout cela, d'ailleurs, n'a rien à voir avec la loi du karma. On commence à revivre sa vie au dernier événement qui a précédé la mort et l'on remonte en un tiers du temps jusqu'à sa naissance. À ce point d'aboutissement a lieu une importante métamorphose de ce composé psychique et spirituel qui constitue notre être. La partie de notre corps astral qui a déjà été transformée et en quelque sorte sublimée par le travail du jeu se libère et va rejoindre le corps causal. Au contraire, l'astralité humaine qui n'a pas encore subi de transformation se détache et retombe, semblable à une ombre ou à un spectre, et va former ce qu'on appelle le cadavre astral. Nous sommes donc, à ce moment-là, en présence de trois cadavres. Les cadavres physiques, éthérique et astral, dont l'être humain s'est dépouillé successivement. Ce dépouillement lui permet d'accéder à un nouvel état, celui du dévachant. Le dévachant est continuellement autour de nous, à l'instar du monde astral. Lorsque l'être humain a ainsi revécu sa vie en remontant jusque dans son enfance, et qu'il s'est libéré des trois corps inférieurs, il en arrive au point auquel la Bible fait une mystérieuse allusion en ses paroles. Si vous ne devenez pareil à de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux de l'Évangile n'est en effet pas autre chose que le monde spirituel ou dévachant. Passons maintenant à la description de ce monde spirituel. Il présente des aspects non moins multiples que le monde matériel, et sa structure est aussi complexe que celle de notre monde. De même que nous distinguons sur notre Terre les masses continentales, les étendues d'eau, l'air atmosphérique et au-dessus des états encore plus déliés de la matière, nous trouvons dans le monde spirituel diverses régions auxquelles, par analogie avec les conditions terrestres, on a donné les mêmes noms. Nous dénombrons donc d'abord une région comparable à la terre ferme. C'est la région continentale du Devachan. Tout ce qui est matériel sur notre terre y apparaît sous la forme d'entités spirituelles. Qu'on se représente par exemple un être humain dans son corps physique. Si on le contemple à l'aide d'une clairvoyance assez poussée pour s'élever jusqu'à la vision devachanique, son aspect matériel perçu par nos sens disparaît aussitôt. En revanche, l'espace qui entoure la forme matérielle commence à reluire, à briller, tandis que la forme elle-même n'est plus qu'un néant, une sorte d'espace négatif réservé dans la luminosité ambiante. De plus, l'être humain, l'animal, apparaissent en épreuve négative. Le sang, par exemple, paraît verdâtre, qui est la couleur complémentaire du rouge. Toutes les conformations, toutes les substances matérielles d'ici-bas ont là-haut leur archétype. Une deuxième région est ce qu'on pourrait appeler les étendues maritimes, les océans du Devachan. Elles se distinguent de nos mers du fait qu'elles ne sont pas délimitées par des côtes, mais que tout le Devachan en paraît comme saturé. En outre, ce n'est pas l'eau qui les emplit, mais une indéfinissable substance de la couleur de la fleur printanière du péché. Cette substance est essentiellement vie, vie à l'état liquide, et elle irrigue pour ainsi dire toute cette région spirituelle en y formant des courants réguliers. Tout ce système rappelle la circulation sanguine de l'être humain, sauf que la circulation chez l'être humain représente un système fermé, isolé des autres, tandis que les courants devachaniques déferlent dans toute cette région. On peut caractériser la troisième région en disant que toutes les sensations, sentiments de joie ou de tristesse, bref, tout ce qui caractérise la vie affective de l'être humain s'y retrouve, mais comme extériorisé, comme projeté hors de soi. Imaginons que nous assistons à une bataille. Mouvement des troupes, bruit du canon, tout cela se manifeste sur le plan physique. Mais parallèlement, invisible, bien que non moins réel, il y a l'ensemble des mouvements des âmes. Passion, douleur, sentiment de vengeance qui anime chaque combattant. Représentons-nous maintenant que toutes ces passions contraires deviennent tout à coup visibles, prennent une apparence extérieure, et vous avez le tableau tel qu'il se présente sur le plan devachanique. Ce tableau est, en quelque sorte, la traduction ou la projection spirituelle de ce qui demeure caché, ici-bas, au fond des cœurs. Dans le cas de la bataille, on verrait se déchaîner dans le Devachan une sorte de conflagration semblable à un formidable orage dans notre atmosphère. Car c'est précisément la région aérienne du Devachan qui est le lieu de ce phénomène. De même que notre Terre est enveloppée d'une couche d'air, de même nous trouvons là-haut une sorte d'atmosphère constituée par l'ensemble des sentiments qui naissent sur le plan physique. Et il importe peu que ces sentiments, ici-bas, se manifestent ou qu'ils restent cachés au fond des cœurs. La quatrième région du Devachan contient les archétypes de tout ce que l'esprit humain a jamais pu produire d'original. Si nous réfléchissons aux conditions de notre vie morale et spirituelle, nous constaterons bien vite que la plupart de nos expériences intérieures sont provoquées par des événements ou des objets extérieurs à nous. Une fleur ou un animal nous procure de la joie. Sans eux, la joie ne serait pas. Il y a cependant des démarches de l'esprit indépendantes d'un stimulant extérieur et quasi spontané. Une pensée originale, une œuvre d'art, une nouvelle machine introduisent dans le monde un élément nouveau. Dans tous les domaines, des créations vraiment originales se produisent. L'humanité ne progresserait pas si des éléments nouveaux n'y apparaissaient de temps en temps. Les créations des grands artistes et des grands inventeurs sont de même nature que la trouvaille la plus insignifiante et ne la surpassent qu'en ampleur. Ce qui importe, c'est l'originalité. Or, dans le Devachan, il y a en quelque sorte des modèles pour la moindre production originale. Ce que l'être humain trouve ici-bas y est préfiguré depuis longtemps. Et il faut remonter au-delà de la naissance d'un artiste ou d'un inventeur pour voir se former en esprit les archétypes de leur création terrestre. Ainsi, nous trouvons dans le Devachan quatre régions dont les contreparties sur le plan physique sont la terre, l'eau, l'air et le feu. La terre, l'élément continental en tant que structure spirituelle du Devachan, puis la région des mers qui correspond à nos étendues d'eau, la région aérienne que traversent les courants de nos passions, bonnes ou mauvaises, et enfin nous y trouvons, baignant le tout, la région des archétypes d'où les âmes, sur le point de redescendre dans notre monde, emportent les germes de leur création future et la raison de leurs actes volontaires. C'est là que l'âme vient se retremper. C'est là qu'elle amasse de nouvelles forces pour son incarnation future.